Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Une mission positive et encourageante. Les membres du gouvernement rentrés de Paris ont dressé un bilan de leur rencontre. Nous en avons reparlé ce matin avec Christopher Gigès. L'AFD au chevet des associations, elle va dresser un état des lieux du monde associatif et lancer un mécénat de compétences pour encourager les salariés à donner du temps de travail pour des actions sociales. Dans la région, un incendie ravage depuis lundi la région de Perth. 200 pompiers sont mobilisés, un village de 350 personnes a été évacué. En métropole, la fin du procès des assistants parlementaires du Front National. Marine Le Pen sera fixée sur son sort judiciaire et politique le 31 mars prochain. Et puis c'est la grande question du moment. Le gouvernement Barnier résistera-t-il à l'examen du budget? S'il doit tomber, certains parlent déjà d'une catastrophe économique. Dans la page sport du football, avec la suite ce matin de la Ligue des Champions et la victoire de Lille et la première défaite de Monaco dans cette compétition. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag. La province sud veut relancer le tourisme et elle vient de créer pour cela une plateforme, une marketplace sur laquelle le client va trouver toutes les prestations touristiques sur un même site. Nous parlerons de cette initiative de la relance du tourisme dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à la fin de ce journal avec nos trois invités. Alexandra Gambino, responsable commercialisation à Sud Tourisme, Eugénie Carlo, responsable communication et marketing à Sud Tourisme, et Flore Roudeau, chef du service tourisme à la direction du développement économique de la province Sud. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver donc dès la fin de cette édition. 1 milliard d'euros pour assurer la survie de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que déclare Christopher Gigès, membre du gouvernement qui était notre invité ce matin à 7h30, au lendemain de la conférence de presse tenue avec Louis Mapou, Yannick Slamette, Gilbert Huyénon et Thierry Santa, Elisabeth Noir.
Ils rentrent d'un déplacement à Paris où ils ont rencontré les plus hautes autorités de l'État pour défendre un plan de redressement de la Nouvelle-Calédonie. Christopher Gigès souligne qu'il était important que toutes les composantes soient représentées parce que le retour de la confiance est aujourd'hui indispensable. Et il rentre avec un engagement de l'État pour un soutien à la mise en œuvre du PS2R, le plan de sauvegarde, de reconstruction et de refondation, et une garantie de l'État pour un prêt de 120 milliards de francs, c'est-à-dire 1 milliard d'euros. 1 milliard qui n'est pas la somme maximale, affirme Christopher Gigès.
Non, c'est pas la somme maximale. Le Premier ministre a été clair, c'est un commencement et c'est un travail en permanence avec les instances de l'État. Il faut juste rappeler que dans le premier montant qui a été inscrit dans le projet de loi de finances au niveau national, c'est 500 millions d'euros. Aujourd'hui, on arrive à 1 milliard d'euros. On était passé à 770 avec le travail parlementaire. Là, on arrive, suite à cette mission, à 1 milliard d'euros, donc 120 milliards CFP, qui s'inscrit dans un travail sur 3 ans. Et donc, avec une convention qui sera signée sur 3 ans avec l'État et qui permettra de réévaluer au fur et à mesure les besoins de la Nouvelle-Calédonie. S'il y a une reprise de croissance, on aura peut-être besoin d'un peu moins. Si on a des nouveaux besoins, il y aura un réajustement qui sera fait avec l'État.
Un prêt d'un milliard d'euros, mais la somme est ajustable, notamment si un certain nombre de réformes sont engagées. En attendant, déclare Christopher Gigès, ce prêt va assurer le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie.
Il permet d'assurer la survie de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on a eu un échange très pragmatique avec le ministre du Budget, Laurent de Saint-Martin, qui nous a dit ce qui est important, c'est d'avoir les bons montants en face des besoins, et surtout rapidement. Et c'est pour ça qu'on a eu cet engagement de la part de l'État sur ce prêt garanti pour, un, assurer la survie des collectivités, parce que s'il n'y avait pas ce prêt, on serait en cessation de paiement des différentes collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de financer les différentes mesures de soutien à l'économie calédonienne et d'assurer la survie des régimes sociaux. Et c'est pour ça qu'on devait agir extrêmement rapidement, mais aussi avec les montants qui suivaient. 500 millions d'euros, ce qui était prévu dans le premier projet de loi de finances, c'était clairement pas suffisant et la Nouvelle-Calédonie aurait été en très grande difficulté.
Il reste toutefois des incertitudes, avec notamment une DM6, une décision modificative numéro 6 au budget de la Nouvelle-Calédonie, qui doit intégrer 27 milliards sur les 120 milliards du prêt. Certains élus du Congrès s'opposent à ce prêt et donc à cette décision modificative. Alors cela représente-t-il une menace réelle ?
Il y a des élus du Congrès qui sont de bonne foi et qui ont des interrogations légitimes sur les conditions du prêt, sur comment le prêt va être ventilé entre les différentes collectivités. Et il y a une personne en particulier qui essaye de se refaire une santé politique en prenant peu de considération au final de la situation économique, qui est Philippe Gomez, qui essaye de détruire à peu près tout ce qui ne vient pas de lui et donc qui essaye de remonter un certain nombre d'élus du Congrès. Moi, je considère que la grande majorité des élus du Congrès sont responsables et c'est Emmanuel Moulin, donc, qui est la personne qui a été missionnée pour préfigurer la mission interministérielle, qui nous l'a dit hier en séance du gouvernement. Si cette décision modificative du budget n'est pas votée au Congrès début décembre, il n'y aura pas de salaire dans la fonction publique, il n'y aura pas de financement de chômage partiel, il n'y aura pas de financement des régimes sociaux. Et donc, on ne sait pas sur quoi ouvre ce genre de décision. Donc, je crois que la plupart des élus du Congrès, la très très grande majorité des élus du Congrès seront responsables au moment du vote.
Cette décision modificative sera présentée le 11 décembre devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On verra alors quelle sera l'attitude des élus et si une majorité se dégage effectivement. Ce qui fait débat, c'est l'endettement de la Nouvelle-Calédonie et le remboursement de ce prêt. Christopher Gigès explique qu'il fallait à la Nouvelle-Calédonie du cash rapidement. C'est ce que permet la mobilisation d'un prêt. Avec une subvention, dit-il, on n'aurait pas atteint 120 milliards.
Comme nous l'a dit le ministre du Budget et le Premier ministre, la transformation en subvention, elle peut se faire de manière pluriannuelle et en fonction des réformes sur lesquelles on pourra avancer. On a demandé des subventions quand on a été voir les différents représentants de l'État. Il y a eu un accord de principe pour qu'une première tranche de subvention puisse être votée, mais je laisserai l'État annoncer le montant qui sera défini. Mais la question du prêt, c'était surtout pour aller très vite et pour qu'on puisse avoir une liquidité qui soit rapide. Mais ensuite, on est sur du prêt garanti par l'AFD. Donc on est sur un prêt garanti par l'État sur une banque d'État. Donc le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être considéré comme si on faisait un prêt sur une banque commerciale. La France, elle veut aider la Nouvelle-Calédonie. Elle ne va pas mettre en difficulté la Nouvelle-Calédonie sur un endettement supplémentaire. Et ensuite, là, je sors un peu de ma casquette de membre du gouvernement. Parmi les plus hautes instances de l'État, il nous a été clairement dit aussi, mettez-vous d'accord sur un avenir institutionnel et on verra sur les subventions. Et je comprends cette logique. Je comprends tout à fait cette logique. Il y en a qui contestent le fait de rester au sein de la République française et qui demandent des subventions. Je pense qu'il y a un moment, il faut être logique avec soi-même.
Christopher Gégès qui assure également que de l'argent va arriver rapidement pour la reconstruction à 100% des écoles et à 70% des infrastructures publiques. Il garantit également un accompagnement technique de l'État sur le PS2R avec l'AFD et avec une assistance pour la réforme des systèmes de santé et du système fiscal. Les membres du gouvernement doivent encore rencontrer les acteurs économiques ainsi que les élus du Congrès pour faire le point sur ce prêt de 120 milliards. Une interview de Christopher Gégès à retrouver en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
On parlait il y a un instant de l'AFD, l'Agence française de développement sur le territoire. Elle va aider les associations qu'elle a rencontrées ce matin. On en parle juste après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ben alors mon frère, tu vas où avec ton chapeau cow-boy là ?
Mais quoi, tu veux que j'aille où ? Je démarre à Bourail, à la foire.
Mais toi là, y a pas la foire de Bourail cette année.
Comment ça, y a pas ?
Ben oui, mais détends-toi, à la place, y a le Royal Caledonia Show.
À tes souhaits.
Mais je dis bien, le Royal Caledonia Show, c'est organisé par le comité de la foire de Bourail, mais à Nouméa. Ça se passe à l'hippodrome Henri Millard les 7 et 8 décembre. Les plus beaux animaux seront présents et une petite ferme pour les enfants. Il y aura des stands, de l'artisanat local et même le rodéo.
Mais non, un rodéo en plein Val-Plaisance ?
Ben ça, mon frère. Et l'entrée est seulement à 300 francs.
Ok, donc là, t'es en train de me dire que ça fait une heure que je dame la benne du pick-up juste pour bouger à Val-Plaisance.
Oui, bon ben, on va mettre ça sur le dos de l'habitude, hein.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Ce matin, l'Agence française de développement de Nouvelle-Calédonie a donc rencontré le collectif des associations et c'était l'occasion notamment de faire le point sur la situation des associations sur le territoire, Léo Fichou.
Et Thibaut Bizien, président du collectif des associations, était accompagné d'autres présidents et membres d'associations du territoire. Ils ont pu échanger avec les responsables de l'AFD. Ces derniers ont voulu dans un premier temps mettre en avant la situation du monde associatif fortement impacté, on le sait, depuis le début de la crise. Puis dans un second temps, ils ont présenté les actions mises en place pour venir en aide aux associations. Thomas de Gubernatis, directeur de l'Agence française de développement.
On a convenu de financer une étude pour objectiver en fait, la situation des associations, connaître un peu mieux leur répartition au niveau sectoriel, leur modalité de financement, la part de leur financement en subvention, donc ce qu'ils perdent, leurs moyens d'action, et puis également aussi l'impact de la crise potentiellement sur les ressources humaines. Il y a une perte de bénévolat, certains ont quitté le territoire, il y a aussi des pertes de compétences, des compétences qui sont parfois très pointues dans le secteur associatif, sur la santé, le médico-social, enfin, sur la jeunesse, l'insertion professionnelle, ça ne s'improvise pas, ce sont des gens qui ont de très grandes qualités. Malheureusement, on a assez peu de visibilité, donc c'est aussi l'objet de cette étude, c'est de pouvoir vraiment mettre la lumière sur les enjeux pour plaidoyer finalement en faveur des associations.
Une étude menée par l'AFD, donc en parallèle de celle lancée par l'ISEE. À l'heure actuelle, les associations calédoniennes ont perdu une grande partie des ressources financières, subventions, dons, mécénats. Mais elles perdent aussi, comme le disait Thomas de Gubernatis, des compétences au travers des bénévoles qui quittent le territoire ou cessent de s'engager. C'est pourquoi l'AFD va mettre en place un mécénat de compétences qui encourage les salariés à donner du temps de travail pour des actions sociales. Une très bonne nouvelle pour Thibaut Bizien, président du collectif des associations.
Ça fait du bien d'ailleurs parce qu'on n'a pas que des bonnes nouvelles dans cette période de crise. On est extrêmement impacté à bien des niveaux et c'est ce pourquoi aujourd'hui on milite. C'est à la fois pour pouvoir disposer de ressources supplémentaires et complémentaires pour pouvoir essayer de combler le déficit et de permettre de pouvoir réengager les gens sur des actions qui sont absolument nécessaires. Parce que même si aujourd'hui on est en perte de ressources, en revanche notre rôle, lui, est renforcé parce que si aujourd'hui on veut faire face à la crise et à ses impacts, on va avoir besoin des associations et des personnes qui s'y engagent pour pouvoir répondre aux enjeux de solidarité, de lutte contre la précarité, de lutte contre les violences, mais aussi tout simplement de trouver aussi un peu de plaisir, un peu de bonheur.
Et Thibaut Bizien rappelle tout de même qu'il est encore difficile de se projeter, notamment en termes juridiques. Le problème, dit-il, c'est que toutes les associations sont uniques, elles ont toutes des rôles différents à jouer. Mais au niveau juridique, elles sont toutes dans le même panier.
Alors aujourd'hui, bien sûr, la loi sur l'économie sociale et solidaire, elle est absolument nécessaire et importante parce que c'est un cadre juridique qui va permettre aux associations de remodeler la structuration, de définir des nouvelles organisations, des nouvelles façons aussi de pouvoir générer des capacités d'autofinancement. Il y a des associations qui jouent un rôle primordial, structurant pour la société calédonienne parce que, par exemple, un foyer qui accueille les personnes victimes de violences, c'est une activité, une action extrêmement importante. Et cette structure-là qui emploie, qui met en place une organisation qui correspond à un cadre légal, elle a besoin d'être protégée par un statut qui lui permet de dire ça, c'est une délégation de service public, ça, c'est protégé, même en temps de crise, parce qu'on protège notre service public aujourd'hui. Or, les associations représentent une partie du service public.
Thibaut Bizien, co-président du collectif des associations, et Thomas de Gubernatis, directeur de l'Agence française de développement, ont rencontré Emmanuel Moulin. Ils ont pu échanger à ce sujet avec le chef de la délégation interministérielle.
Le Nouméa Women's Forum se poursuit depuis ce matin. Des ateliers sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin sont proposés à la FOL. Des femmes, chefs d'entreprise ou responsables associatifs ont pu partager et échanger autour de leur parcours.
Edelo Wengen, je suis là pour le service social du FSH. Cet atelier, il était très bien, on a pu échanger, j'ai pu surtout écouter ce que les intervenants avaient partagé en termes de parcours dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, des reconversions. On a beaucoup vu d'expériences qui ont été partagées par les uns et les autres, des associations aussi, comment ça a démarré. J'ai pris ça comme vraiment des échanges d'expériences intéressantes.
Pour intervenir et parler des projets qu'on défend, qui sont en lien avec l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Et donc, moi, je représente une coopérative de commercialisation de fruits et légumes qui regroupe des agriculteurs calédoniens. On est là pour donner envie aux femmes de monter des projets, de croire en elles.
Vaitoukina Isabelle, présidente de l'association L2R. C'est une association de locataires sur Dimbéa.
Qu'est-ce que vous avez retenu?
Qu'il faut oser. En fait, surtout pour nous, les femmes de notre pays, qu'en fait, on a besoin de soutien, que c'est une des clés de soutien et qu'il faut croire en ses rêves et en ses projets.
Des propos recueillis par Kalinda Boakou. Demain, le Nouméa Women's Forum prendra ses quartiers au CAPS, le centre administratif de la province sud, pour le troisième et dernier jour de l'événement. Cette information pratique pour les automobilistes avec une hausse en vue du prix des carburants à partir du 1er décembre. Le sans-plomb augmentera de 2,80 francs par litre pour passer à 160 francs à la pompe. Le gazole va aussi augmenter d'1,20 francs. Le litre de gazole affichera 138 francs 40 à la pompe dès dimanche. L'actualité dans la région avec ce violent incendie en Australie-Occidentale, il est toujours en cours et les autorités ont pris la décision de faire évacuer un village à 200 km au nord de Perth, le village de Cervantes. Jean-Pierre Zajac.
Entre 40 et 50 000 hectares de végétation ont déjà brûlé dans cet incendie qui a été causé par un simple accident de la route lundi dernier. En plus de forêts, broussailles et pâturages, le sinistre a détruit plusieurs bâtiments à vocation agricole et provoqué des pertes au niveau du cheptel. Épaulés par des hélicoptères bombardiers d'eau, environ 200 pompiers combattent les flammes. Face à la gravité de la situation, les 530 habitants de Cervantes ont reçu l'ordre d'évacuer la localité la nuit dernière. un centre d'hébergement a été ouvert à leur intention à Julian Bay. Une alerte à la fumée est également en vigueur sur 1000 km au nord de l'incendie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h46, une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Grande nouvelle! Votre showroom automobile Automotors à Magenta réouvre ses portes. Venez découvrir les tout derniers modèles des marques Shangan, DFM et Geely. Des offres exceptionnelles vous attendent. Rendez-vous dans votre showroom Automotors à Magenta en face de l'As de Trèfle. Nous sommes impatients de vous retrouver.
Pour les fêtes de fin d'année, Nespresso vous rembourse 50% de votre machine en crédit café. Rendez-vous dans votre boutique Nespresso au 33 rue de Sébastopol à Nouméa par téléphone au 050 200 ou sur notre site internet www.nespresso.nc. Offre soumise à condition, disponible en boutique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole. On retrouve Jean-François Baudin.
Oui, une double actualité judiciaire pour ouvrir cette page d'actualité nationale avec deux procès très suivis. D'abord celui de Dominique Pellicot et de ses 50 co-accusés. Dominique Pellicot a drogué sa femme, vous le savez, pendant 10 ans avant de la livrer à des inconnus recrutés sur Internet. Le ministère public a terminé ses réquisitions. Les peines réclamées vont de 4 ans jusqu'à 20 ans de prison à l'encontre de Dominique Pellicot. Un réquisitoire sans concession à l'encontre de tous ceux qui ont abusé de sa femme Gisèle. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Résultat, si certains co-accusés avaient en ce début de semaine encore une attitude assez détendue, une décontraction inappropriée selon l'avocate générale, eh bien, il n'en est plus rien. Ce soir, le curseur est élevé. À une exception près, le seuil est à 10 ans de prison et jusqu'à 18 ans pour les co-accusés. Dans sa conclusion, l'avocate générale déplore le déni de la majorité des hommes, reconnaissant les faits mais pas l'intention de viol. Les formules magiques ne fonctionnent pas dans une instruction judiciaire, tranche-t-elle, avant de se tourner vers la cour. Par votre verdict, le viol accidentel n'existera pas et vous rendrez ainsi un peu d'humanité volée à Gisèle Pellicot. Parole maintenant à la défense. Béatrice Zavaro vient de plaider cet après-midi pour Dominique Pellicot afin de tenter d'humaniser son client en reprenant son parcours de vie, celui du père, du grand-père, du mari, avant de revenir sur les fêlures de l'enfance. Le viol dont il est victime à 8 ans, un viol collectif dont il est cette fois témoin à l'adolescence. Béatrice Zavaro qui n'épargne pas enfin les co-accusés qu'il ne pouvait pas ignorer dans quoi il s'engageait en répondant à l'invitation de Dominique Pellicot et cette annonce sur Internet. Cherche complice pervers pour abuser de mon épouse.
Et à l'issue de sa plaidoirie devant la presse, l'avocate de Dominique Pellicot a tenu à rendre hommage au courage de la victime de son client. « Je la respecte profondément », a dit maître Béatrice Zavaro. L'autre procès, c'est celui des assistants parlementaires du Front National. Dans ce procès, le ministère public a requis 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen avec exécution immédiate, ce qui la priverait de toute possibilité de se présenter à la prochaine présidentielle. Les audiences sont terminées et le jugement sera rendu le 31 mars. C'est l'avocat de Marine Le Pen qui a conclu les débats par sa plaidoirie, Alexandre Chauveau.
Assise au premier rang, Marine Le Pen acquiesce tout au long des 3 heures de plaidoirie de maître Bosselut. L'avocat conteste notamment l'existence de tout système de détournement de fonds publics. C'est tout au mieux un système D, ironise-t-il, insistant sur le caractère public de l'organigramme du parti. La défense nie également toute intention frauduleuse, parle du travail politique des assistants parlementaires comme d'une pratique banale, partagée par tous les partis européens. Une plaidoirie technique, mais aussi très politique. La peine d'inéligibilité requise par le parquet est ainsi qualifiée d'arme de destruction massive du jeu démocratique. À la sortie, Marine Le Pen se dit soulagée et concentrée sur la séquence politique à l'Assemblée.
Me voilà totalement et à 100% de retour dans un combat politique qui est en train d'atteindre son paroxysme, puisqu'il s'agit de savoir si on va réussir à faire changer un budget qui est en même temps mauvais, injuste, violent, et si ça n'est pas le cas, d'en tirer les conséquences politiques.
Et le principal espoir de Marine Le Pen, c'est qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité, l'appel soit suspensif, autrement dit qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire.
Le jugement sera donc rendu le 31 mars. Marine Le Pen évoquait la séquence politique autour du budget. Michel Barnier est menacé d'une motion de censure s'il le fait adopter en utilisant le 49-3 et le Rassemblement national annonce qu'il votera cette motion de censure déposée par la France insoumise. Michel Barnier a lui-même mis en garde contre le risque de faire tomber le gouvernement et il est relayé aussi par la porte-parole du gouvernement. Ce n'est pas la catastrophe politique qui les inquiète, mais la catastrophe économique attendue si le gouvernement venait à tomber. Baptiste Morin pour Europe 1.
La censure pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vase qui s'est bien rempli ces dernières heures. Les taux d'emprunt à 10 ans de la France ont sensiblement augmenté. Le spread, c'est-à-dire l'écart entre les taux français et les taux allemands, a retrouvé des niveaux comparables avec les années de crise de la dette en zone euro. C'est ce qu'analyse Éric Dor, professeur d'économie à l'ISEG.
Il y a de plus en plus de préoccupations de la part du marché, même si on est encore bien sûr très loin d'un scénario de crise de dette souveraine. Mais il ne faudrait pas aller trop loin, parce qu'à ce moment-là, on joue un peu avec le feu. Il ne faudrait pas vraiment bientôt déclencher une véritable crise de confiance.
Car en matière d'emprunt, la perte de confiance se traduit par une hausse des taux, la crise de confiance par une incapacité à trouver des investisseurs. Et Michel Barnier ne l'a pas caché hier soir, le taux français est aujourd'hui comparable à celui de la Grèce. Situation inimaginable il y a encore quelques mois.
Et à propos d'actualité économique, une mauvaise nouvelle encore liée aux difficultés du secteur automobile. L'équipementier Valeo a annoncé la fermeture de deux usines dans la Sarthe et en région parisienne. 868 emplois vont être supprimés.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Craignez-vous que le gouvernement de Michel Barnier soit renversé par une motion de censure? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS ne trouvent pas que la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Jacques Lallier soit trop sévère. Ils sont 14% à l'inverse à trouver que cette peine est trop sévère. Encore un mot d'actualité en métropole. Apprendre la théorie du genre à nos enfants, c'est non pour le ministre délégué à la réussite scolaire. Un programme d'éducation sexuelle est en cours de finalisation, mais Alexandre Portier a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'opposait à sa transmission à l'école, en l'état, et il l'a fait à la tribune du Sénat.
Ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Je veux un encadrement très strict de tous les intervenants parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant.
Et ce projet doit donc être retravaillé avant d'être présenté mi-décembre au Conseil supérieur de l'éducation. 11h53, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
C'est la fin d'année et Mobile Nouvelle-Calédonie vous réserve une surprise exceptionnelle. Jusqu'au 15 décembre, Mobile vous offre l'opportunité de remporter un iPhone 16 chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, 4 iPhone 16 à gagner avec un tirage au sort tous les lundis. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook Mobile Nouvelle-Calédonie. Abonnez-vous à notre page et jouez dès maintenant. Ne manquez pas votre chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Mobile Energy lives here.
1 million. 1 million de francs en bons d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 4020.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bons d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bons d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 4020.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Bodin et Léo Fichou, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va donc d'abord parler football, Léo. La fin ce matin de la 5e journée de Ligue des Champions, une matinée mitigée pour les clubs français.
Victoire lilloise, mais défaite monégasque. Ce matin, on commence par la bonne nouvelle. Lille est allé décrocher un 3e succès dans la compétition en s'imposant 2-1 sur la pelouse de Bologne en Italie et pointe désormais à la 12e place sur 36. Sachant que les 24 premiers seront qualifiés pour le prochain tour. Monaco, de son côté, a connu sa première défaite de la saison sur la scène européenne. Les joueurs du Rocher se sont inclinés 3-2 contre le Benfica Lisbonne, mais restent en très bonne voie pour se qualifier. Monaco est 8e. On rappelle qu'hier, le PSG et Brest ont perdu. Défaite parisienne 1-0 contre le Bayern Munich et défaite des Brestois 3-0 à Barcelone. Brest est 11e, Paris 25e.
Et puis un mot de voile avec la suite du Vendée Globe. Charlie Dalin sur Massif Santé prévoyance garde la tête, mais ça bouge derrière.
Le Français poursuit sa traversée de l'Atlantique en tête du classement. Au dernier pointage, celui de 9h ce matin, il devançait Sébastien Simon, qui récupère la deuxième place à bord de groupe Dubreuil. Il est à 37 000 nautiques du leader. Thomas Ruyant est désormais troisième sur Vulnérable. Il est à environ 41 000 nautiques. C'est donc très serré entre la deuxième et la troisième place. Johan Richomme, à bord de Paprec Arkea, n'est pas très loin du trio tête. Il est à 60 000 nautiques de la tête. Et les quatre premiers sont pas très loin du Cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique.